il est temps maintenant alors de céder la parole à Julie Allard qui va présenter les conclusions qui lui ont été inspirées par ces deux journées entières de colloques et d'interventions et de débats et de discussions plus stimulantes les unes que les autres.
Oui, merci Madame la Présidente de me passer comme ça la parole. Donc j'avais promis de le faire, donc je vais quand même le faire comme ça. J'avais promis de terminer par « toute vérité n'est pas bonne à dire » parce que cette expression me taraude depuis le début de ce colloque, dans la mesure où ce colloque était basé sur l'hypothèse selon laquelle effectivement toute vérité n'est pas bonne à dire et même certaines vérités suscitent manifestement des oppositions ou des discussions au point, dans certains cas, de demander à la justice d'intervenir, c'est-à-dire certaines luttes politiques, effectivement, se traduisent aujourd'hui par des demandes de vérité. Et il y a aussi des vérités, que ce soit des vérités historiques ou scientifiques, qui sont l'enjeu de controverses de nature politique. Alors, c'était l'objet de ce colloque, la vérité en procès, et plus précisément, le traitement réservé par les juges à ces vérités qui sont politiquement controversées. Alors maintenant, une fois que c'est énoncé, la lourde tâche, effectivement, de conclure ou d'essayer de conclure me revient, et je vais essayer de me prêter à l'exercice, en toute modestie et sans aucune exhaustivité, évidemment, par rapport à l'ensemble des très riches contributions qui ont été présentées, mais simplement en essayant d'unifier un petit peu la problématique, plus, je ne vais pas dire pour moi, mais enfin pour moi qui réfléchis à cette question depuis un an dans le cadre de l'organisation de ce colloque, et pour essayer de tirer quelques brèves conclusions. Alors, ce qui m'est apparu en essayant de réfléchir à la question de la conclusion, c'est qu'au fond, on a été confronté pendant ces deux jours à trois catégories de questions, trois catégories d'interrogations, avec lesquelles je vais essayer de structurer ces conclusions sous forme de trois parties qui seront, vous allez le voir, en fait inégales en longueur les unes et les autres en raison de l'importance de ces questions dans le colloque. Alors la première catégorie de questions, et il y a plusieurs questions qui se sont posées dans cette catégorie, et la plus évidente à savoir c'est celle du rapport entre vérité et justice qui a surtout hier d'ailleurs fait l'objet d'une grande discussion. D'une part, comme Robert Jacob l'a souligné lors de la toute première session, est-ce que le juge peut répondre à une question métaphysique, une question scientifique, une question historique, une question philosophique ? Autrement dit, nous a-t-il dit, est-ce que ces types de questions qui mobilisent des vérités sont justiciables ? Et d'autre part, c'était la question d'Anne Lagervall hier après-midi, n'est-il pas paradoxal que quand on cherche à établir ou à reconnaître ou à faire reconnaître une vérité, on s'adresse à des juristes, alors même que par définition, les juristes ont une appréhension de la réalité qui va être médiatisée par des catégories, et que par conséquent, ces catégories vont être de nature à déformer la réalité. De même, nous a dit René Provost, et on l'a rappelé ce matin, le droit dénature par définition toutes les questions qu'on lui pose, le droit est cannibale. Ce sera donc la première catégorie de questions que je vais un tout petit peu développer. La deuxième catégorie de questions auxquelles nous avons été confrontés, c'est celle qui démontre au contraire les limites de la justice par rapport aux attentes de vérité. Disons, pas tant les limites de la justice par rapport à la question de la vérité que les limites de la justice par rapport à ce que certains acteurs attendent comme vérité de la part de la justice, pour être plus précis. Alors, il y a plusieurs exemples qui peuvent illustrer ce type de questions. On a vu ce matin, par exemple, que la vérité judiciaire sur certains crimes peut être extrêmement décevante parce qu'elle n'est qu'une partie à la fois de la vérité factuelle, mais aussi de la vérité historique, et que par conséquent, on peut être déçu quand on est en attente de vérité de la part de la justice. C'est également posé dans ce registre-là la question du rapport, voire de l'incompatibilité entre l'établissement d'une vérité judiciaire proprement dite et la question de la réconciliation dans les sociétés qui ont vécu des conflits de masse. Et troisième catégorie de questions que j'évoquerai, qui, elle, a peut-être été moins perçue dans les exposés, mais qui, moi, quand j'avais pensé à la question du colloque, me paraissait quand même assez problématique, c'est celle du rapport entre la vérité et la politique. Parce que le sous-titre du colloque nous imposait ce rapport entre le juge et la vérité politique, et néanmoins, ce rapport me semble en soi quelque chose de problématique. Donc, si vous permettez, on revient d'abord sur la première catégorie de questions, la plus évidente, en tout cas la plus massive, par rapport aux exposés qui nous ont été faits. La justice est-elle un lieu de vérité ? Ou plus exactement, parce que je crois que ce n'était pas vraiment ça la question, finalement, c'est pourquoi la justice apparaît-elle comme un lieu de vérité privilégié pour les acteurs ? Et c'était finalement autour de ça, notamment, qu'a tourné la discussion cet après-midi, mais pas seulement. Et ce qui est en jeu ici, c'est pourquoi, ou par quelle spécificité propre à la justice, et j'entends ici justice vraiment dans un sens le plus général possible, pourquoi la justice, quelle spécificité de la justice en font une instance privilégiée d'établissement ou de reconnaissance de la vérité. Et il faudra peut-être revenir plus tard sur la distinction qui a été faite, ou pas, entre établissement et reconnaissance d'une vérité. Alors parmi les spécificités qui ont été évoquées dans les exposés, spécificités qui rendraient sensible la justice à la vérité, il y a évidemment l'exigence pénale de base qui est l'établissement d'un certain nombre de faits et qui vont, par définition, dès lors qu'on établit des faits, conduire à la construction d'une forme de vérité et souvent d'ailleurs d'une vérité officielle sous la forme de vérité judiciaire, même si, comme on vient de le dire, il peut y avoir une dimension limitée ou partielle de cette vérité. Par ailleurs, d'autres orateurs ont souligné l'importance, encore cet après-midi d'ailleurs, de la structuration de la justice, soit par la parole, soit par des concepts, soit par des procédures, soit par des symboles, soit par des rituels, mais en tout cas par un ensemble d'éléments qui vont, au fond, venir remplacer la violence que la justice est censée prendre en charge, et en remplaçant la violence, l'écarter finalement du lieu où la justice se déroule, la mettre à distance, et de ce fait-là, libérer un espace disponible pour une vérité. Je ne dis pas la vérité, mais pour une vérité. Et en ce sens, un peu de façon provocatrice par rapport à ce que René Provost nous a dit hier, il m'est apparu que finalement la force de la justice, et plus généralement du discours juridique, dans la reconnaissance de vérité, c'était précisément la capacité de la justice et des catégories juridiques à dénaturer la réalité, c'est-à-dire à sortir la réalité de son caractère naturel et brut pour justement la transposer dans un registre plus secondaire, plus réflexif. Et dans la discussion d'hier d'ailleurs, on a bien insisté à plusieurs reprises sur la différence entre la vérité factuelle et la vérité narrative, puisque la vérité narrative serait plutôt ce qui ressort du récit des acteurs et qui ne peut être complètement confondu avec ce qui s'est effectivement passé. Aussi, et peut-être contrairement à notre intuition première ou ce qu'on a pu dire hier dans la discussion, il se peut au fond que les catégories juridiques, en définissant la réalité à travers ou par le moyen de concepts ou de mots, justement contribue à l'existence de la vérité. Autrement dit, ce qui fait de la justice une instance de vérité, c'est qu'elle n'est pas naturelle et qu'elle donc elle utilise des mots et des concepts qui permettent de construire une vérité qu'on va à ce moment-là distinguer de la réalité. Et c'est là, évidemment, une distinction aussi qui n'est pas forcément apparue comme telle dans les discussions, mais qui est une distinction qui vaut la peine, puisque la vérité est un discours sur la réalité, au fond, et la réalité est autre chose. Et au fond, c'est vrai que la vocation des catégories juridiques, c'est souvent de donner à des réalités des statuts. Par exemple, on admet publiquement un statut de victime, on admet publiquement un dommage subi, et donc on va qualifier au fond une certaine réalité. Et on va énoncer donc à son sujet une vérité. Toutefois, ça a été souligné par Elisabeth Clavery hier, évidemment la reconnaissance de ce type de vérité ou l'application simplement des catégories juridiques n'est pas le fruit d'une génération spontanée comme si les catégories s'appliquaient d'elles-mêmes à la réalité. Dans beaucoup des cas qui nous ont été présentés, les catégories juridiques sont elles-mêmes débattues, discutées, disséquées, réinterprétées, redéfinies par rapport à des faits justement, par rapport à une réalité. Et donc, si le procès est un forum, et c'est vrai que plusieurs des interventions qui nous ont été présentées ont montré que le procès était un forum, eh bien c'est un forum où normalement plusieurs vérités, en tout cas plusieurs récits de vérités, peuvent normalement être confrontés. Et donc, à ce titre-là, la justice fournit aux parties des occasions de raconter une vision de l'histoire. Et normalement, alors je dis normalement, enfin dans l'idéal, dans la représentation de la justice, normalement la justice finalement permet cette confrontation pacifique, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la violence, cette confrontation pacifique entre deux récits, et dont émerge, confrontation pacifique, dont est censée émerger justement une forme de vérité. Alors, a fortiori, et là ça va nous amener à ce qu'on a entendu tout à l'heure, a fortiori, si le récit des victimes est reconnu, voire repris par un tiers, en l'occurrence par le juge, alors effectivement, ce récit va acquérir un statut de vérité supérieur encore qu'il n'aurait pas pu obtenir sans l'intervention du juge. Autrement dit, la proclamation par un juge, alors proclamation ou déclaration ou reconnaissance, on peut discuter des termes, mais ce n'est pas ici le lieu, la proclamation par le juge de la souffrance d'une victime, par exemple, constitue une reconnaissance de son statut social de victime. C'est évidemment ça que la victime vient chercher, plus que le fait seulement de savoir si elle a été ou non victime, ce que souvent, pas toujours d'ailleurs, mais en son fort intérieur, elle peut admettre sans avoir besoin de l'intervention du juge. Alors, c'est la raison pour laquelle plusieurs exposés ont insisté sur le fait que la justice, évidemment, ne se contente pas d'établir une vérité, mais va aussi reconnaître une vérité, ce qui est encore une dimension différente, reconnaître une vérité qui par ailleurs est souvent ce qui est attendu de la part des justiciables. Autrement dit, moi ce qui m'a frappé, c'est que souvent quand on décrivait les différents cas, on se rend compte que ce que les justiciables attendent, c'est ça, c'est qu'on reconnaisse une vérité, et évidemment ils peuvent être déçus par rapport à ce que la justice reconnaît comme vérité. Pourquoi ? Parce que reconnaître une réalité ou reconnaître même un fait, c'est à la fois dire ce qui est, mais c'est aussi confirmer ce qui est dans son existence. Alors, c'est un peu abstrait, mais je vous donne un exemple très simple, qui est un exemple juridique. Quand on reconnaît un enfant, on le fait exister en tant qu'enfant de quelqu'un, et donc on le confirme dans son existence d'enfant. Et j'ai été très frappée quand j'avais vu un reportage il y a 2-3 ans, au moment de l'affaire Fourniret, j'avais entendu des parents d'une victime qui disaient textuellement, mais s'il n'y a pas de procès, nous ne sommes pas victimes. Hein ? Donc leur être victime, leur existence de victime dépendait de l'existence du procès, et même pas d'ailleurs de la condamnation du responsable, mais simplement de leur prise en considération dans cette forme qu'est le procès. Alors, c'est ainsi qu'on va arriver évidemment à ma deuxième série de questions, c'est que bien entendu, les victimes, pas seulement les victimes, enfin les justiciables en règle générale, peuvent être déçus à l'égard de la reconnaissance qu'ils vont obtenir de la justice. Et cette déception a quelque chose à voir avec ce que Anne a rappelé tout à l'heure, à savoir une forme d'artificialité du droit et de la vérité qui va émaner de la justice. Vous rappelez qu'en introduction, de façon un peu provocatrice, Olivier Corten, pour démontrer l'artificialité de la vérité judiciaire, a commencé son exposé en disant « voilà, la pizza est un légume ». Vous avez là une vérité définie par un tribunal qui a un côté artificiel et qui n'en est pas moins une vérité au niveau juridique. Et donc, cette limite ou cette artificialité peut effectivement dérouter ceux qui attendent davantage, et notamment une catharsis ou éventuellement des effets thérapeutiques de la justice. D'où donc ma deuxième série de questions. Le juge va-t-il jouer un rôle politique justement dans la sélection ou dans la définition ou même simplement dans la mise en récit d'une certaine vérité, ou encore peut-on vouloir utiliser politiquement la vérité qui est issue du débat judiciaire ? Peut-on, y a-t-il un usage politique qu'on peut faire de cette vérité dont on vient d'expliquer qu'elle était artificielle, partielle, construite, etc. Alors dans plusieurs cas, je vous rassure, c'est les autres parties vont plus vite. Dans plusieurs cas qui ont été présentés, l'établissement d'une vérité et même la reconnaissance symbolique d'une vérité par l'intermédiaire du juge ont souvent été introduits ou présentés face à autre chose, à savoir la question du conflit et de la pacification du conflit. Dans le cas argentin, par exemple, qui a été présenté hier, dans un premier temps, nous a expliqué Patricia Naftali, on a jugé que certaines vérités, pour reprendre l'expression, ne seraient pas bonnes à dire parce qu'elles empêcheraient, au fond, de cicatriser les blessures ou les déchirures de la société. Dans d'autres cas également, il est apparu que les demandes de vérité, y compris quand elles étaient purement factuelles, à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, ces demandes de vérité ont été souvent opposées à des processus de réconciliation. Processus de réconciliation qui, eux, développaient davantage une logique, on l'a vu hier, des torts partagés, et donc qui débouchaient sur des lois d'amnistie. Ça, c'est un cas qu'on a vu, enfin, c'est des cas qu'on a vus. Et puis, dans d'autres cas, voire dans les mêmes cas, mais après un certain temps, on a vu le contraire, c'est-à-dire qu'on a au contraire vu qu'on demandait à la vérité de réconcilier. C'est-à-dire qu'on disait, au fond, la reconnaissance d'une vérité collective est une étape indispensable pour pouvoir ensuite se réconcilier, comme si la vérité était de nature à éradiquer le conflit ou à mettre un terme au conflit. Et ce qui n'est pas forcément apparu, c'est qu'entre ces deux discours sur la vérité, il me semble que ce n'était plus vraiment le même discours sur la vérité que le premier, à savoir la vérité empêche de se réconcilier, parce que là, il s'agissait au contraire de se réconcilier par la vérité. Et ce deuxième discours sur la vérité me semblait moins centré sur la factualité de la vérité, mais au contraire sur la vérité comme objectif en soi, comme fin en soi. Et qu'elle soit factuelle ou qu'elle ne le soit pas d'ailleurs. Ce qui comptait, c'est qu'elle soit dite. Et on voit ainsi comment on a utilisé politiquement, au fond, et il n'y a pas d'élément péjoratif dans ce que je dis, c'est politiquement, on a utilisé une vérité qui était censée ne pas être politique. Hein. C'est ça, évidemment, sur lequel je reviendrai dans le dernier point de mon intervention, puisque c'est la neutralité prétendue de la vérité, hein, la possibilité de la vérité de nous réconcilier, qui a été utilisée pour rassembler et pacifier une communauté déchirée. Alors derrière cet argument, la vérité comme étape à la réconciliation, il y a à mon avis un vieux rêve en fait, qui est l'idée qu'on peut, grâce à la possession d'un certain nombre de vérités ou d'un certain nombre de savoirs, on peut au fond substituer ce savoir à la politique en règle générale, et en particulier au processus de prise de décision, et notamment à l'acte de juger qui est évoqué tout à l'heure. Et donc, je voulais simplement souligner qu'il n'est pas tellement étonnant que dans le cadre des tendances générales de la justice contemporaine, le recours aux experts, par exemple, croisse en même temps que ça croît le nombre de demandes de vérité. Il y a ici quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui procède probablement du même mouvement. Alors cette volonté de substituer le savoir à une décision politique, je vous donne un exemple, Shane Perlman nous mettait en garde en fait contre cette illusion à vouloir éviter la justice, qui est par définition difficile, quelque chose de faillible, qui est quelque chose de très incertain, en voulant justement imposer une vérité. Et en disant imposer une vérité, je ne veux pas dire forcément par la force, mais simplement par la seule force de la vérité. Je le cite, « Là où il est question de décision, il ne peut s'agir de vérité. » Devant la vérité, on doit s'incliner, on n'a pas à décider. Et donc, le fait que, ça a été évoqué tout à l'heure par Sandrine Lefranc, le fait qu'il y ait des commissions spécifiques qui se soient mises en place pour établir des vérités est, à mon avis, symptomatique de cette difficulté politique à assumer les décisions et ce qu'elles entraînent comme choix, comme engagement et éventuellement comme rapport de force. Tout à l'heure, Sandrine Lefranc disait, voilà, il y a un discours officiel auquel on fait référence, on dit, voilà, l'établissement de ces commissions est au fond une victoire du modèle juridique, une victoire de l'empire du droit, alors qu'en fait, nous dit-elle, et effectivement plusieurs exposés allaient dans ce sens, en fait, ce que ça montre, c'est que ces commissions et tout ce qui y ressemble, et en général le discours sur la vérité, est d'une part un moyen de court-circuiter le débat contradictoire, au sens strict du terme, c'est-à-dire un vrai débat contradictoire, à armes égales, dans un cadre rationnel, et j'entends, on peut mettre des guillemets si vous voulez à rationnel, mais ça représente quelque chose, cette rationalité, ça ne veut pas dire que c'est plus vrai ou que c'est moins vrai, c'est que ça représente quelque chose. Donc c'est une façon de court-circuiter ce débat, d'une part, et d'autre part, comme je l'ai dit à l'instant, d'éviter la tâche de la décision, et d'éviter au juge de devoir décider ce qu'il en est de la vérité. Et Sandrine Lefranc disait tout à l'heure, écrire la vérité, ou l'histoire, c'est ce qu'on a aussi discuté ce matin, plutôt que faire justice. Et pour terminer cette partie et passer à la dernière, qui ira très vite, je vous rassure, il me semble qu'il y a là le potentiel d'un divorce entre d'un côté la justice et la vérité judiciaire, d'un côté, et de l'autre, la vérité politique, justement, et la réconciliation qu'on attend de cette vérité politique. Et juste une petite parenthèse qui m'est venue dans la discussion, effectivement, ce que je viens d'expliquer là participe évidemment au-delà des cas qui ont été cités, qui sont très emblématiques, probablement d'un mouvement général de la justice, un mouvement qu'on pourrait qualifier de déformalisation et qui se traduit par deux choses qui ont été évoquées. D'une part, une centralisation sur la question des victimes et sur le récit des victimes, et d'autre part, sur la dimension thérapeutique du recours à la justice, comme non seulement pour les victimes, mais aussi effectivement pour les responsables de certains crimes. Donc, dernière perspective que je voudrais aborder, qui est peut-être la plus difficile, parce que, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été abordée de front dans les exposés, et donc je ne vais pas la résoudre, mais simplement je vous la suggère comme une dernière question, une dernière piste. Au fond, dans quelle mesure une vérité peut être qualifiée de politique ? Qu'est-ce que c'est qu'une vérité politique ? Alors, tout d'abord, il me semble que dans les exposés est apparu un lien conceptuel tacite entre, d'une part, vérité et savoir. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais au fond, ce lien entre vérité et savoir est compris dans un premier temps dans un sens apolitique, à plusieurs reprises. Je vous donne un exemple. La prétention des victimes, enfin la demande des victimes de savoir ou de connaître, hein, c'est l'expression qui est utilisée, le sort de leurs proches qui sont disparus, ne constitue pas en tant que telle une revendication politique. Il s'agit d'une connaissance, d'un savoir qui leur manque. Et cette dimension apolitique de la demande de vérité, elle dépasse les cas très emblématiques qu'on a vus pendant le colloque. Si on voit par exemple à chaque meurtre d'enfant, on entend les parents dire « on a besoin de savoir ce qui s'est passé ». Et je ne porte là non plus pas de jugement sur cette... Je constate qu'on dit « on a besoin de savoir ce qui s'est passé ». Et cette demande paraît incontestable. De quel droit on pourrait refuser à des familles de victimes de savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Le problème, c'est que ça donne une impression d'autonomie de la question de cette question de la vérité par rapport à d'autres considérations politiques que l'on imagine plus partisanes ou plus intéressées et donc plus contestables. Autant on ne peut pas dire non à quelqu'un qui veut savoir ce qui est arrivé à sa famille, autant les conséquences de ce savoir, et c'est là-dessus que je voudrais en arriver. En fait, ce qui est apparu dans les différents cas, et en particulier dans le cas argentin, c'est que les demandes de vérité les plus neutres, savoir ce qui s'est passé, c'est au fond assez neutre en soi, en tout cas politiquement, cessent d'être neutres dès qu'on répond à la demande. Et ça, on ne l'a pas beaucoup dit, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui est neutre, mais la réponse à la demande cesse d'être neutre, comme si, et là c'est un peu provocateur, comme si on rejouait le péché originel à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'on sait, ce savoir entraîne une forme de damnation. Je vous donne un exemple très simple. Comment accepter qu'on sache avec certitude ce qui est arrivé à un membre de notre famille, des viols, des tortures, des massacres, et se contenter de ce savoir ? Ça n'existe pas. Dès qu'on le sait, dès qu'on en est sûr, on va immédiatement vouloir que cela ait des conséquences, et en l'occurrence, que ça entraîne des punitions ou des sanctions. En outre, la vérité par les tribunaux, et ça c'était une des hypothèses de ce colloque, la vérité que les tribunaux vont établir, elle vaut évidemment souvent, au-delà des cas singuliers qui sont traités, elle a souvent une dimension politique. Alors dans les différents cas qu'on a entendus, les vérités étaient politiques de différentes façons, soit ces vérités portaient sur des faits ou une histoire collective, soit on leur accordait une vertu politique, même si elles étaient singulières, hein, on l'a vu avec la thématique de la réconciliation, soit même on instrumentalisait ces vérités, on utilisait ces vérités à des fins sociales pour établir au fond, ou fonder la légitimité d'un État, ou même, comme Cora Andrieux nous l'a dit hier, pour établir la légitimité d'une nouvelle juridiction, en mal justement de reconnaissance. Est-ce qu'alors mon unique conclusion de ces conclusions ne devrait pas être la suivante, mais ça ne sera pas, donc je vous rassure, hein, devrait pas être, au fond, est-ce que ce n'est pas le propre de la justice de transformer toute vérité en vérité politique, hein, parce que peut-être que c'est ça, au fond, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ça que, par exemple, les tribunaux populaires, en empruntant cette certaine forme à la justice institutionnelle, ne cherchent pas simplement à construire une vérité politique ? Alors, quelles conclusions si on répond par l'affirmative, est-ce que je crois, quelles conclusions on peut en tirer sur l'usage politique qui va être fait de la justice sur base d'un argument de vérité? Alors, dans un article intitulé justement « Vérité et politique », Hannah Arendt, elle, nous mettait en garde contre les risques d'une confusion justement entre le registre de la vérité et celui de l'action politique. Alors, quel est son argument? Et son argument est plus subtil qu'il y paraît au premier abord. Qu'est-ce qu'elle dit? Hannah Arendt dit, au fond, l'homme d'action qui est l'homme politique se définit par sa volonté de changer le monde. Il veut avoir un effet sur le monde, il veut que son action produise des effets sur le monde. Et de ce fait-là, dit-elle, son action s'accommode mal des exigences de la vérité. C'est insupportable pour l'homme d'action, la vérité. Alors je la cite, « Il n'a jamais fait de doute pour personne que la vérité et la politique sont en assez mauvais termes, et nul, autant que je sache, n'a jamais compté la bonne foi au nombre des vertus politiques. Il est de l'essence même de la vérité d'être impuissante et de l'essence même du pouvoir d'être trompeur. » Alors pourquoi c'est plus subtil qu'il y paraît? C'est parce que, on pourrait conclure de cette citation qu'Arendt va au fond condamner l'action politique, comme trompeuse, comme mensongère, comme fausse. Or, ce n'est pas du tout ça qu'elle dit. Ce qu'elle dit, et qui est intéressant pour notre propos, c'est qu'il n'y a rien de plus douteux qu'une figure politique qui s'érigerait en professionnelle de la vérité. C'est-à-dire, c'est ça le danger, c'est quand la politique va utiliser la vérité comme si elle n'était pas politique. Et tout se passe donc comme si Arendt avait en vue ce risque inhérent à ce qu'on a décrit, je crois, dans différents cas, au fait que les institutions, alors c'est les gouvernements, les juridictions elles-mêmes, que les institutions vont utiliser la vérité comme un argument politique, mais pas comme une vérité politique, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pratiquement pas parlé de vérité politique depuis le début du colloque, ce qui va permettre aux institutions d'utiliser la vérité, c'est précisément son caractère neutre, en tout cas ce qui fait qu'une vérité par définition n'est pas politique, ne peut pas être politique. Et d'où le risque d'instrumentalisation, c'est-à-dire de discours qui vont être des discours politiques, voire des discours idéologiques, mais des discours qui ne se présentent pas comme des discours politiques et qui ne se présentent pas comme des discours idéologiques, que ce soit ceux évidemment des États, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, des experts ou des ONG, etc. Et donc, quand cette stratégie politique, à savoir parler de vérité parce que c'est neutre, c'est une stratégie politique, quand cette stratégie politique est celle des victimes, voire des ONG, on trouve ça très séduisant, mais quand c'est une stratégie développée par les États et que les victimes en sont victimes, c'est plus problématique et ça nous interpelle plus sur l'instrumentalisation possible du concept de vérité. C'était particulièrement flagrant cet après-midi dans l'exposé sur le procès de Marie-Antoinette, puisque les tribunaux révolutionnaires étaient un peu une caricature de cette une parodie au fond de cette capacité de la justice ordinaire. Reste pour conclure donc ce que Thomas Berns a souligné dans la première matinée, à savoir que ce ne sont pas forcément les institutions elles-mêmes qui cherchent à produire des vérités officielles, mais bien une réalité sociale qui recèle des éléments perturbateurs et provocateurs, comme il disait, réalité sociale qui va contraindre les institutions à le faire. Autrement dit, il est toujours heureusement possible, et je dirais même souhaitable, de subvertir la vérité officielle et de retourner ainsi la neutralité prétendue de toute vérité contre elle-même. Et donc, ces conclusions, vite pour finir, seraient incomplètes si je ne terminais pas par des remerciements. Un remerciement d'abord pour toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce colloque, les orateurs évidemment qui ont accepté d'y apporter leur contribution, les présidentes de séance, les quatre présidentes de séance qui doivent être remerciées parce qu'elles se sont investies dans la thématique au-delà même de leur rôle d'arbitre, comme ça a été le cas notamment cet après-midi. Et puis surtout les membres du comité scientifique qui pendant un an ont conçu et déjà pré-discuté tous les thèmes qui vous ont été présentés. Alors plus particulièrement, je pense qu'Olivier Corten s'associera à moi pour remercier Benjamin Lachtermann, Patricia Naftali, Martina Falkowska et Vincent Lefebvre pour toute l'aide concrète évidemment et indispensable qu'ils ont apportée en s'impliquant dans le fond et dans la forme aussi sincèrement sur l'organisation de cet événement, et je tiens à les en remercier.